Aujourd'hui, je vais aborder un autre thème qui est le feu de la colère. Une philosophie qui se penche sur cette question avec un ouvrage donc, que j'ai présent, écrit par une jeune philosophe qui s'appelle Sophie Galabru, qui est la nièce du célèbre acteur. Alors Sophie Galabru, juste deux mots, elle est née en 1990, elle est donc dans la trentaine. Elle n'a pas perdu de temps, elle entre à Normal Sup en 2010. Elle devient agrégée en 2013 et présente une thèse sur Lévinas en 2018. Actuellement, elle est professeure de lycée et chargée de cours à la Sorbonne. Elle a publié deux livres, donc aujourd'hui, un livre sur le temps à l'œuvre chez Lévinas en 2020 et Le visage de nos colères en 2022. Alors avec cet ouvrage, elle aborde un sujet d'actualité qui concerne le grand public et qui s'adresse au grand public. Le mérite de ce livre, c'est que c'est une écriture limpide, avec des références minimales, rejetées en fin de volume, et de nombreux exemples tirés de la littérature, du cinéma, de la BD. Bref, un livre qui est assez facile à lire, agréable, pour qu'il s'interroge sur une émotion qui déborde l'espace privé et se répand de plus en plus dans l'espace public, voire dans le champ politique. La question centrale de cet ouvrage, elle comprend deux versants. D'abord, quelle est la pertinence de la colère dans l'action publique? Et deuxième versant, peut-on généraliser un phénomène réactif défini par son exceptionnalité? Alors l'ouvrage est conçu de façon classique avec trois parties. Une première partie qui fait l'état des lieux de la colère, à savoir une émotion qui est empêchée depuis l'enfance et dans tous les recoins de la vie sociale et professionnelle. Une deuxième partie qui est conçue pour penser et pour défendre une philosophie de la colère étant une énergie vitale qui circule difficilement dans l'espace social, mais qui est sublimée dans le champ artistique. Et une troisième partie, qui est plus pratique, qui propose une politique de la colère, elle en pose les jalons et les difficultés. Et dans une interrogation finale sur le pardon, elle enfonce le clou en opposant la sagesse de la colère à l'énigme du pardon. Donc voilà, j'aborde donc ces trois parties, l'une après l'autre, pour présenter cet ouvrage. Donc dans la première partie, il s'agit d'un état des lieux. La colère fait l'objet d'un empêchement depuis toujours. Elle apparaît spectaculaire, mais elle se révèle le plus souvent inutile dans ses effets. Le livre commence avec la scène du gigot dans le film de Claude Sautet, Vincent, François, Paul et les autres, où l'on montre un rituel festif entre amis, mais qui tourne à la catastrophe. Le moment est gâché. C'était inutile de se mettre en colère. Alors cet empêchement est intériorisé. On n'ose pas faire scandale, notamment dans les situations de domination hiérarchique. Il y a une injonction sociale à la bienséance, on feint d'accepter l'inacceptable, tout en se reprochant sa lâcheté. La représentation sociale de la colère est toujours négative, qualifiée de haineuse, d'irrationnelle, de capricieuse, d'hystérique. C'est évidemment une confusion, parce que la colère est une émotion réactionnelle, un mécanisme de défense, tandis que la haine est une passion mauvaise qui se nourrit de fantasmes. Mais c'est cette confusion qui persiste à travers un certain nombre de figures de la colère, la figure du colérique caractériel, la figure de Hulk, la colère de l'enfant capricieux, le cliché sexiste de la colère féminine, la colère hystérique, etc. Alors, historiquement, la colère est disqualifiée parce que toujours vulgaire. C'est une émotion primaire, délégitimée au profit de la raison. On oppose la colère à la raison. Pour Socrate, à travers Platon, la colère est illégitime, elle est délétère, elle est source de désordre, elle dérange l'ordre établi. Aristote, plus nuancé, défend l'idée d'une saine colère, c'est-à-dire d'une colère qui suivrait le principe de mesure. Il faut qu'elle respecte un cadre acceptable. Ce qui fait qu'il y a tout un art de la colère, avec des formes plus ou moins subtiles de tolérance. Par exemple, la colère des dieux, la colère de l'outrage, l'honneur blessé, la colère irascible, Mélenchon, la colère froide, Jean-Philippe, etc. Et le risque est toujours négatif, c'est de tomber dans le pathétique, dans le morbide, exprimer une frustration tragique. Pour Sénèque et pour les stoïciens, la colère est un égarement de l'esprit. Si l'on doit réagir, il faut le faire sans émotion. Le christianisme, dans le sillage du stoïcisme, condamne la colère. Elle est un péché d'orgueil, car seul Dieu a le privilège de la colère. L'impératif chrétien, c'est l'humilité et le pardon. Et malgré la sécularisation, on continue à dénigrer la colère parce qu'elle rend le sujet indésirable. Pour le dire d'un mot, la colère n'est pas sexy. Cependant, elle ne disparaît pas pour autant. Elle transparaît, par exemple, à travers Rousseau, qui la légitime. Pour Rousseau, elle est au fondement de la dénonciation de la corruption des mœurs et de la nature humaine. Avec le romantisme, on va continuer dans cette veine. Elle devient lyrique au service d'un cœur noble et élevé. Aujourd'hui, la colère s'installe dans le paysage démocratique. Elle apparaît comme une forme de liberté, la liberté de revendiquer des droits bafoués, mais en même temps, elle est conjurée dans ses formes contestataires. Une seule nuance, ce qui est la colère des banlieues, qui est irriguée dans une forme transgressive qu'est le rap, mais c'est une posture plutôt esthétique et cathartique que politique. Donc cette ambivalence de la colère est à la fois légitime, irrépressible et honni, doit être pensée. Et c'est donc l'objet de cette deuxième partie. Cette deuxième partie, donc Sophie Galabru fait une philosophie d'une émotion qui doit être défendue, et elle nous propose une sorte de défense et illustration de la colère. L'idée générale, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que la colère ? La colère, c'est un principe de vitalité. C'est un mécanisme de défense face à une menace physique ou symbolique. C'est une réaction du corps qui déploie une énergie considérable, mais dans un temps relativement court. La colère s'exprime par le sang qui monte au visage, les mâchoires qui se serrent, le cœur qui palpite, la voix saccadée, plus ou moins sonore et aiguë. C'est une émotion totale et en grande partie disproportionnée. La colère ne mesure pas. Et cela peut apparaître comme un gaspillage d'énergie. On se met dans tous ces états, mais quelquefois pour pas grand-chose. La colère n'est peut-être pas la vie de la raison, mais c'est la raison de la vie. On ne peut pas l'économiser parce qu'elle représente 5 enjeux majeurs. Le premier, parce que c'est une réaction adaptée et modulée qui se différencie en fonction des contextes. La colère est plus ou moins facile dans des situations physiques que morale ou symbolique. On réagit plus facilement quand on est bousculé dans le métro que dans un open space face à un collègue envahissant ou harcelant. Les situations de subordination modèrent ou diffèrent la colère. La colère a donc sa place dans un contexte socioculturel de l'entreprise qui tente à la réprimer et qui la réprime par l'instauration d'un climat de bien-être, de bienveillance, d'atmosphère cool. L'entreprise tente à brouiller les rapports de force à travers une scénarisation de la paix sociale. L'usage, par exemple, de la novlangue, l'injonction d'empathie, et tout cela met en sourdine, à distance, le vocabulaire et les raisons de la colère. En deuxième lieu, il faut soutenir le principe de la colère parce qu'elle permet de réintégrer de l'agressivité dans la vitalité. Elle permet de se reconnaître comme sujet singulier et moral, digne de respect. Cette légitime colère évite les pathologies du refoulement et du refoulement des offenses ressenties. Elle permet d'éviter les phénomènes du corps que sont l'urticaire, l'asthme, l'hypertension, les ulcères, les insomnies, la dépression, le burn-out. De même qu'elle évite les comportements de fuite les oublis, les retards, les faux malentendus, la victimisation. La colère au bon moment explicite les limites à ne pas franchir sans aller jusqu'à l'agression. En troisième lieu, il faut préciser que la saine colère, en tant que ressort pulsionnel du corps, pose clairement et explicitement les termes d'une conflictualité légitime. La colère au bon moment permet d'identifier et de faire respecter les différences. Quatrième enjeu, la légitimation de la colère permet de contrebalancer le discours de la résilience et l'idéologie de la bienveillance. Cette idéologie qui font que la souffrance apparaît comme une inadaptation sociale, un symptôme avec lequel il faut se réconcilier. Réhabiliter la colère, c'est pour combattre des législations injustes ou des pratiques sociales opprimantes, l'apartheid, le droit des femmes, les droits sociaux en général. C'est pour dénoncer les politiques manipulatoires et insidieuses du style nudge, qui vise à maîtriser en douceur les émotions parasites négatives. La colère est toujours juste, car elle est vécue à la première personne, et quand elle survient, c'est parce que le moi est menacé. Enfin, dernier enjeu et non négligeable, la colère évite la violence, en redonnant sa place au conflit. Elle fait apparaître les vrais visages, elle identifie les différents, elle donne l'occasion d'expliquer ce qui fait souffrir, mais en même temps, il faut ajouter qu'elle est difficile, parce qu'elle oblige à renoncer au moi idéal, le moi gentil, soumis à l'appréciation d'autrui. La colère, c'est toujours l'épreuve du feu, on y brûle ses illusions. Et Sophie Galabru précise, c'est une forme d'antidépresseur temporaire, qui renverse la position passive, une forme de négligence de soi. Au terme de cette défense de la colère, elle propose de l'illustrer. Et la meilleure illustration de cette énergie créatrice qu'est la colère, c'est l'œuvre d'art. Comme le dit Flaubert, je voudrais juste faire deux citations, « Il faut naître enragé pour faire de la littérature. » Ou Baudelaire, « Je soulagerai ma colère par des livres épouvantables. » Le propos n'est pas anecdotique dans le livre de Galabru. Il aborde des questions centrales de l'art. L'art n'est-il qu'une esthétisation de la colère? N'est-il qu'une éthique de l'impuissance? Il faut répondre par la négative, car l'art va jusqu'à la mort. Écrire englobe le refus de vivre, dit Jean-Paul Sartre. Et Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. La visée esthétique va au-delà de l'artiste. Elle agit par procuration, elle projette des émotions fortes, dérangeantes, difficiles, intenses, cathartiques, parce que l'art n'est pas sans rapport avec la vérité, avec l'injustice et la banalité du mal. On pense surtout au cinéma, et le cinéma qui peut provoquer une contamination politique de la colère. En citant Ken Loach, à propos de son dernier film sur l'ubérisation, du travail, nous voulons laisser le spectateur avec un sentiment de colère et la volonté de faire quelque chose. Pour résumer ce chapitre, on dira que l'art n'est pas seulement le sentiment universel du beau, c'était la vision de Kant, mais c'est aussi la colère partagée. Peut-être avec le risque de faire de l'art social, de subordonner la visée créatrice à la critique de l'ordre social et politique, sans doute, mais c'est un enjeu qui ouvre la voie à ce que Sophie Galabru appelle la politique de la colère, qui fait l'objet d'une troisième partie. La troisième partie va au cœur du sujet. Comment penser une politique de la colère? La colère est-elle un levier pertinent de la démocratie? L'idée directrice, c'est qu'en démocratie, la colère est toujours sous-entendue. Il y a, dit-elle, préavis de colère, c'est le titre du chapitre. Et ce préavis se formule autour de cinq idées. La première, c'est que la colère fait l'objet d'un préavis parce qu'elle est inscrite dans le contrat social. La légitimité de la gouvernance, c'est d'éviter le chaos, l'anarchie, la guerre civile. Mais s'il faut pour cela restreindre les libertés, ces restrictions ne sont jamais inconditionnelles. La sagesse du peuple a devoir de vigilance, elle doit se méfier des risques d'une domination excessive, disproportionnée, irrationnelle, et dans ce cas, la colère devient légitime. La deuxième idée, c'est qu'il est de la nature du pouvoir d'avoir à gérer des populations et des intérêts divergents, voire contradictoires. Selon Jacques Rancière, sur lequel elle s'appuie, le meilleur État n'est pas l'État consensuel, mais au contraire la mésentente, c'est-à-dire, entre guillemets, la mise en commun de ce qui n'est pas commun. L'État organise l'expression des conflits et prône une démocratie plus digne et plus libre. La troisième idée, c'est qu'il faut faire l'état des lieux de la gouvernance, repérer les formes et évolutions de l'agressivité de l'État, sa brutalité, son système pénal, la manipulation idéologique des populations, l'équilibre du système de surveillance par rapport à la sécurité et la préservation des libertés. Or, ce qui est flagrant aujourd'hui, c'est le fonctionnement de l'administration publique sur le modèle de l'entreprise libérale, avec des effets délétères, notamment sur les services publics, l'hôpital, l'école, la justice, la prison, et de même que la révélation des scandales sur une politique sanitaire surévaluée. Ce que l'on constate, c'est un biopouvoir qui juridicise l'espace privé jusqu'à l'intime, et ses pratiques politiques soulèvent de légitimes colères. Quatrième idée, dans le contexte que suscitent les multiples colères, il ne suffit pas de créer des plateformes de dénonciation, des manifestations revendicatives, des rassemblements ou des blocages au rond-point. La quatrième idée, c'est que les cris de ralliement ne constituent pas un programme. Et c'est bien là le véritable défi de la colère. Pour le dire d'un mot, la colère s'exprime, mais son programme est introuvable. Les enjeux de justice, d'équité, de vidding, de liberté, s'épuisent dans le repli sur soi, les violences urbaines, l'emballement de la colère, le désespoir, toutes ces choses qui nourrissent une idéologie de la haine, du ressentiment, des discours fascisants, xénophobes, des fantasmes libératoires, et ce qui fait qu'on aboutit à ce que Lordon appelle un rage room à ciel ouvert. Dernière idée, il existe des exemples de colère active qui trouvent des débouchés institutionnels. Le premier, c'est l'expression vivante de la colère des dominés, notamment le mouvement féministe. En quelques décennies, grâce à un combat quotidien, cette colère a fait progresser considérablement le droit des femmes. Deuxième exemple, les mouvements qui poussent la colère jusqu'à la révolte. Par exemple, le mouvement zapatiste, les grèves de 95, les gilets jaunes. Ces mouvements posent la question de la contestation violente dans un cadre démocratique. Il y a des philosophes qui prônent la révolte violente, la désobéissance civile, par exemple Simone Veil, Jean Cavaillès, Günther Anders. Il y a des mouvements qui s'installent dans une résistance active, par exemple Notre-Dame-des-Landes, des mouvements qui réhabilitent la colère, mais l'accompagne d'une forme verbale, réfléchie, contrôlée, qui débouche sur une reconnaissance par l'État, un processus de négociation avec les services publics. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est la distinction entre la colère et la haine, la nécessité à terme de s'inscrire dans un conflit identifié, la colère n'étant pas une fin en soi, elle n'élimine pas le réel, mais c'est l'impulsion nécessaire pour faire reconnaître le lieu du litige et faire évoluer le droit démocratique. Je voudrais faire l'impasse sur le chapitre sur le pardon pour aller à la conclusion. On peut dire que la colère, c'est un comportement respectable, une réplique humaine, trop humaine, dont le défi est de faire reconnaître une offense et de restaurer sa dignité et ses droits. Le défi est relevé dans des micro-lieux de résistance aux normes oppressives, pensons aux communautés libertaires d'Amérique du Sud, elle cite la Cécilia, les ZAD, les communautés agricoles autonomes, les refuges d'animaux, etc. Ajoutons pour finir que Dans ces mouvements, on découvre que la colère, c'est aussi le monde de l'amitié et du franc-parler. En quoi la colère rejoint l'art de la dispute? Pourquoi faut-il aimer la colère, demande Edgar Morin en 1961. Parce qu'elle est un art de vivre en commun sans rien perdre de soi. Voilà, merci.